Mystère. La ville elle-même n'était pas visible, elle semblait se cacher derrière la bosse. Mais l'armée ukrainienne, qui s'était enterrée dans cette bosse à l'abri de casemates et de tranchées, se faisait entendre de temps à autre. Et quand on ne l'entendait pas, Sergueï savait malgré tout qu'elle était là, tapie à gauche de la plantation d'arbres que longeait un chemin de terre fréquenté naguère par les tracteurs et les camions. L'armée s'y trouvait depuis 3 ans déjà, tout comme la pègre locale, renforcée de l'international militaire russe, qui, dans ses propres abris, buvait thé et vodka, au-delà de la rue de Pachka, au-delà des jardins, au-delà des vestiges de la vieille abricoterie plantée à l'époque soviétique, au-delà des champs que la guerre avait privés de paysans, comme la prairie qui s'étendait entre le potager de Sergueïch et de Yavnivka. Andrei Kourkov est ce soir notre invité. Il est par WhatsApp en Ukraine et je le remercie infiniment. Il est l'auteur d'un livre magnifique et remarquable qui paraît ces temps-ci en traduction française, qui s'intitule « Les abeilles grises » et dont je viens de lire un court extrait. Il est accompagné du cinéaste Igor Minaev, qui lui est en studio et qui est l'auteur d'un film qu'il faut absolument revoir, qui s'intitule « La cacophonie de Donbass ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique, et bien sûr, ce sera un groupe ukrainien, il s'appelle Daka Braka.
Bop, 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 bop.
Merci Andrei Kourkov d'être avec nous ce soir. Je rappelais que vous étiez écrivain, qu'en France on vous connaît, on vous admire, on vous estime, mais aussi dans le monde entier, puisque vos livres sont traduits dans le monde entier. En France, on vous avait découvert avec un livre remarquable, métaphorique et symbolique, qui s'intitulait « Le pingouin », qu'il faut relire aujourd'hui pour comprendre la tragédie de votre pays. Mais d'abord, comment allez-vous et où êtes-vous ?
Merci, bonsoir. Je suis en Ukraine d'Ouest. Je devais partir de Kiev avec ma famille. En fait, on était à deux avec ma femme à Kiev, mais au début de la troisième guerre, jour de la guerre, on est parti pour le village, d'abord avec notre ami et son fils, et après... On est parti pour Lviv parce que nos enfants étaient là pour les vacances. Ils partaient un jour avant la guerre, aussi avec notre fille qui est venue de Londres spécialement pour passer un week-end long avec des frères et des amis. Et maintenant, là... nous sommes dans l'Ukraine d'Ouest. Oui.
Et là, vous vous sentez en sécurité, là où vous êtes réfugié ?
Je ne pense pas que je me sens réfugié. C'est tranquille ici. Il y a bien sûr des signes de la guerre. Il y a des réfugiés, beaucoup de vrais réfugiés qui cherchent les abris, qui cherchent possibilité de traverser les frontières. On était en fait très contents et très ravis d'être aidés par nos amis. Et maintenant, nous sommes dans un petit appartement qui était vidé pour nous par une dame âgée qui a donné nous les clés et laissé le frigidaire complet et s'est déménagé chez sa fille.
Alors on le dit peut-être pas assez en France, mais il y a un grand élan de solidarité des peuples limitrophes de l'Ukraine pour accueillir les réfugiés ukrainiens qui traversent les frontières, mais il y a aussi un grand élan solidaire à l'intérieur de votre propre pays, Andrei Kourkov.
Oui, c'est vrai. Il y a plus en plus de réfugiés qui viennent, qui cherchent la possibilité de rester peut-être dans l'Ukraine d'Ouest. Les gens qui sont sûrs que l'armée ukrainienne va défendre Kiev, défendre le pays, résister aux Russes, ils ne veulent pas traverser la frontière, mais bien sûr, il y a aussi beaucoup d'étrangers, des étudiants étrangers. Et c'est une tragédie pour eux parce que c'est les gens qui s'installaient en Ukraine pour faire les études. Et maintenant, où les études sont interrompues, ils doivent partir. Ils ne savent pas où il faut aller. Et j'ai rencontré quelques étudiants comme ça ici.
Aujourd'hui, après ce week-end très meurtrier, nous savons que... certaines villes d'Ukraine ont été systématiquement bombardées. Nous savons que Mariupol est bombardée. Nous savons que Kharkiv est bombardée. Nous savons que l'armée russe est dans les faubourgs de Kiev. Avez-vous d'autres nouvelles, Andrei Kourkov ?
Oui, j'ai beaucoup de nouvelles. Je téléphone mes amis. Je parlais aujourd'hui avec notre collègue qui se trouve à Melitopol, occupé par les Russes, sans Internet, à... Parfois, il y a des connexions de portables et bien sûr, la télévision ukrainienne là est coupée et il n'y a qu'une chaîne télé Russie 24 avec propagande totale.
Aujourd'hui, que veut dire pour vous, Andrei Kourkov, d'être ukrainien aujourd'hui, lundi soir ?
Oui, c'est résister, c'est savoir espoir que l'Ukraine va survivre. Que l'Ukraine va évoluer et devenir un vrai pays européen. En fait, c'est clair pour beaucoup de gens qui ne pensaient pas de l'histoire ukrainienne avant la guerre. Maintenant, c'est le temps pour comprendre que l'histoire d'Ukraine, ce n'est pas une partie de l'histoire de la Russie. C'est l'histoire européenne. L'Ukraine était libre au 16e, 17e siècle avec des élections des chefs de l'armée, des officiers. Et c'était... pas une monarchie comme Russie. Les Ukrainiens étaient toujours les individualistes et pas les gens collectifs comme en Russie. Ils acceptaient jamais le pouvoir étranger. Et ça, la résistance d'aujourd'hui, en fait, c'est une preuve que les Ukrainiens ne sont pas prêts de retourner dans l'Union soviétique, dans un régime de police. Dans une vie avec censure, avec contrôle total d'État.
Défendre l'Ukraine, donc, pour vous, Andriy Kharkov, c'est défendre notre Europe.
Oui, c'est notre rêve européen. En fait, les Ukrainiens n'ont jamais rêvé américain. C'était une chose soviétique. Après la chute de l'Union soviétique, les Ukrainiens toujours regardaient vers l'Europe, voulaient que l'Ukraine devienne comme Pologne, comme Lituanie, comme Allemagne. Mais bien sûr, l'Ukraine avait beaucoup de problèmes toujours avec la vie politique, avec des corruptions, avec des autres choses. Mais petit à petit, il avait des réformes, il avait des changements, il avait des améliorations des situations.
On voit bien à l'intérieur de votre nouveau livre qui paraît ces jours-ci en traduction française, Andriy Kharkov, Les abeilles grises, que la guerre, elle est dans votre pays depuis longtemps. Vous vivez dans la guerre. La guerre n'a pas été déclarée par Vladimir Poutine il y a 10 jours. Elle a commencé quand, la guerre, selon vous ?
Oui, la guerre commençait en février-mars 2014 avec l'annexion de Crimée et avec le début de la guerre à Donbass. Et bien sûr, la guerre à Donbass était tout de suite la guerre russo-ukrainienne parce que aussi les pro-russes, les séparatistes locaux étaient soutenus par d'abord par les volontaires missionnaires russes avec les armes russes, avec ammunition russe, et après il était aidé et après commandé par les officiers russes. Mais comme la guerre s'est trouvée 800 km de Kiev et 1000 plus km de Lviv, d'Ukraine d'Ouest, beaucoup des Ukrainiens pensaient que c'est une guerre éloignée, c'est une guerre trop loin, et c'est une guerre qui ne peut pas interrompre leur vie. Maintenant, c'est la guerre totale contre l'Ukraine, et il y a le danger pour l'Ukraine de perdre l'indépendance. Et à cause de ça, maintenant, tous les gens sont consolidés. Bien sûr, il y a des gens qui essayent de fuir à l'étranger ou envoyer ses enfants, ses femmes à l'étranger. C'est déjà 1 million de réfugiés ukrainiens qui traversaient les frontières avec Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Pologne. Mais la majorité reste. Et aussi à Kiev, il y a beaucoup de gens qui restent et qui sont sûrs que Kiev va rester ukrainien.
Et Kiev va rester ukrainienne, selon vous, Andriy Kharkov?
Oui, je crois. Je comprends que Kiev est pratiquement encerclé. Mais il y a des centaines de milliers de gens qui sont préparés pour la défense, pour la résistance. C'est l'armée territoriale, ce n'est pas les gens militaires, mais ils sont prêts de défendre les villes, ces maisons, ces rues. Et j'espère qu'il y a aussi l'armée ukrainienne qui aussi là, autour de Kiev, va défendre la ville, la capitale.
Alors, dans votre dernier livre, Les abeilles grises, Andriy Kharkov, vous mettez en scène deux personnes qui vivent dans un village quasi abandonné, à l'exception de ces deux vieilles personnes qui ont décidé de rester, l'un parce qu'il peut pas bouger, l'autre parce qu'il est éleveur d'abeilles et qui veut protéger ses abeilles. Et on sent bien que, à l'intérieur de ce village fantomatique, il y a eu beaucoup de départs, il y a une sorte de mélancolie dans votre livre, il y a une sorte de lassitude. On a l'impression qu'avec l'invasion par la Russie de l'Ukraine, il y a une sorte de solidarité entre les Ukrainiens qui n'existait peut-être pas auparavant.
Oui, je dois dire que le comportement, la psychologie et aussi peut-être la mentalité des Ukrainiens a changé radicalement après 2004-2005, après la Révolution Orange, et avec Euromaïdan en 2013-2014, les gens sont devenus encore plus indépendants. Ils appréciaient la liberté plus que la stabilité, et parfois plus que la vie, si les Russes viennent. Et à cause de ça, aujourd'hui, on peut dire que c'est comme examen pour les Ukrainiens. Est-ce qu'ils sont prêts de rester libres, rester indépendants, ou ils doivent accepter l'occupation? Je ne crois pas que les Ukrainiens accepteront l'occupation russe. En fait, aussi dans les villes occupées, il y a des protestations, des démonstrations contre les Russes avec des drapeaux ukrainiens. Et il y a des vidéos sur YouTube des Kherson, des Nikolaïev, de Genichescu, les gens ont quand peur aux Russes qui sont bien armés et qui crient ce qu'ils pensent de la Russie et de l'armée russe.
Alors nous avons en studio André Minaev, qui est ukrainien, qui est cinéaste, qui avait fait ce film magnifique il y a pas mal d'années, qui s'appelait « L'inondation » d'après Zamiatine, un texte remarquable, et qui là a signé il y a quelques années un film plus actuel sur le Donbass. Vous avez des nouvelles de ce qui se passe en Ukraine ?
J'ai des nouvelles tous les jours. De toute façon, ma journée commence par des coups de fil, par échange des SMS, des textos, etc. Donc tous les amis qui vivent en Ukraine, partout, à Kharkov, à Kiev, à Odessa, à l'Ukraine de l'Ouest, donc je dois savoir qu'ils sont vivants. Ça, c'est la première chose que je dois savoir, c'est nécessaire. Et donc, pendant la journée, plusieurs fois, on échange des textos. Je ne demande pas d'écrire tout. Je demande de me répondre oui, non. C'est déjà énorme, parce qu'on est en guerre. Donc, voilà, donc je suis en contact en permanence avec eux, évidemment.
Ça veut dire quoi être en guerre, Igor ?
Ça veut dire de vivre sous le bombardement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Et se battre contre quelque chose qu'on n'acceptera jamais, cette occupation-là, quelque chose qu'on défend la liberté avant tout, on défend quand même la démocratie, et c'est ça, et quand quelqu'un vient, et ça c'est vraiment impensable, c'est inattendu, on pouvait jamais imaginer qu'une guerre pareille peut éclater, elle a éclaté. C'est ce qui est le plus grave, évidemment. Et donc, je me suis dit souvent que je fais des réflexions comme quelqu'un qui vit dans un autre pays où on a la vie tranquille, on est plein de compassion, on essaie de faire quelque chose pour l'Ukraine, mais eux, ils vivent quand même sous le bombardement. Et ça change tout. Toutes les réflexions pendant, disons, la paix et pendant la guerre, c'est pas tout à fait les mêmes. Voilà, quand je vois aujourd'hui, je reçois les photos de la ville, de ma ville natale, qui s'appelle Kharkov, on dit Kharkiv aujourd'hui, en ukrainien, mais ça change pas l'essentiel, évidemment. C'est la même ville. Moi, je suis né là-bas. Et donc, j'ai fait mes études là-bas aussi, à l'école et tout. Et quand je vois aujourd'hui, justement, avant cette émission, j'ai reçu une photo de la rue, là, où j'ai vécu avec mes parents, et que c'est la rue complètement en feu. Je n'arrive pas à croire, évidemment. C'est un peu de la science-fiction. Donc, et pourtant, non. Pourtant, c'est la vérité. C'est la réalité.
Et vous, André Kourkov, vous êtes en guerre. Vous êtes dans un pays qui a commencé peut-être une guerre qu'on nous annonce extrêmement longue. Cette guerre, vous l'aviez pressentie. Cette guerre, vous l'aviez déjà traversée, puisque vous avez publié un livre tout à fait remarquable qui s'intitulait « Place Maïdan » au moment du début donc de l'occupation de la place Maïdan. Est-ce que vous avez l'impression que l'intensité de cette guerre va durer et va endommager la conscience européenne au plus profond de nos consciences ?
Oui, je ne savais pas la réaction possible d'Europe et je suis très content que l'Europe s'est réveillée enfin. Et compris qu'est-ce que c'est la Russie aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut attendre du président Poutine. Je veux remercier tous les Européens pour les aides, pour le soutien des Ukrainiens dans ce moment. Je ne peux pas dire que je savais que sa guerre va venir. J'espérais qu'on va trouver une solution à Donbass et à propos de l'annexion de Crimée. Mais dans le même moment, j'ai compris que Poutine est devenu très vieux dans les dernières 2-3 ans et il perd sa vie et il ne veut pas partir sans essayer de réaliser ses espoirs de reconstruire l'Union soviétique à nouveau ou un nouveau empire russe. Et c'est le moment le plus dangereux pour le monde parce que pour ça, il est prêt d'utiliser tous les moyens possibles. Et tous les moyens qu'ils ont, c'est les armes nucléaires. Ils ne pensent pas sur les soldats russes qui sont tués et blessés en Ukraine. Ils pensent que de sa place dans les manuels scolaires d'histoire qui seront publiés en Russie avec Tsar Poutine qui a réussi de reconstruire l'Empire ou l'Union soviétique.
Alors, on sait que les moyens d'information en Russie ont été complètement verrouillés par Poutine. On sait que les rédactions ne peuvent pas transmettre ce qu'ils voient et ce qu'ils observent. Avez-vous tous les deux, et je pose la question à Igor d'abord, des nouvelles de ce qui se passe en Russie, Igor ?
Tout à fait, parce que moi aussi j'ai des amis comme en Russie, comme en Ukraine. Et évidemment, je les appelle. Pour le moment, les liaisons téléphoniques existent par WhatsApp. Voilà. Mais par contre, vous savez, je voulais vous dire que c'est très curieux à réfléchir. On a reçu tous sur WhatsApp en message, comme quoi, à partir de telle ou telle date, faites attention à ce que vous dites sur WhatsApp. Tout ça, ça peut être enregistré, tout ça, ça peut être écouté, etc., etc. Donc, donnez pas des informations confidentielles. Et je me suis dit, est-ce que ça doit être vrai d'un côté, mais ça doit être faux de l'autre côté, parce que ça fait peur aux gens. Ne parlez pas. Ne dites pas ce que vous pensez, parce que ça peut être dangereux. Donc, vous voyez, entre vrai et faux, la frontière est très fragile ici. C'est vrai. Et donc maintenant, quand je parle avec mes amis qui sont à Moscou, j'essaie de ne pas donner des noms concrets. J'essaie de faire des métaphores, etc. On se comprend. Ça nous rappelle, évidemment, ça nous rappelle un peu l'Union soviétique. Quand on parlait au téléphone en sachant que tout peut être enregistré, et tout le monde disait « Écoute, on parlera après parce que c'est pas une conversation téléphonique. » On revient à ça. Donc ça, c'est les vieilles peurs qui reviennent aussi. Ça, c'est pas normal. En plus, eux, ils n'ont pas d'informations parce que tout est coupé. Il n'y a plus de la presse indépendante. Tout est interdit. Les journalistes sont partis ou ils sont en tôle. Voilà, c'est catastrophique, on n'a jamais vu ça. Donc, moi, je continue quand même à entretenir mes relations avec des gens que j'aime partout. Et ils sont tous solidaires, de toute façon.
Et vous, Andrei Kharkov, comment arrivez-vous à avoir des informations sur ce qui se passe dans votre propre pays, en Ukraine ?
Non, ici, c'est très facile, en Ukraine, de recevoir toutes les informations. Je suis d'accord complètement avec Igor, c'est une situation... comme Orwell en vie, 1984. Mais j'ai suivi toutes les nouvelles, aussi les nouvelles régionales. Je n'ai pas de nouvelles de mes amis anciens en Russie. En fait, je suis en contact avec des immigrés russes qui sont partis à cause pour les raisons politiques ou économiques ou culturelles. Mais là, en Russie, c'est une situation épouvantable. Les poètes et les écrivains russes ont signé lettres ouvertes de soutien à Poutine et ils ont soutenu la guerre contre l'Ukraine et publié ces lettres dans la littérature gazette, la gazette littéraire. Et là, il y a des noms très connus, 500 noms. C'est le liste des gens sans morale. Et dans le même moment, je veux dire qu'il y a, et c'est très bien, il y a des écrivains qui soutiennent l'Ukraine, qui sont contre la guerre. Et c'est pas beaucoup de noms, mais il y en a. Et c'est Vladimir Sorokin, Boris Akunin, Dmitri Bykov, Igor Irtyenev, Shenderovich et des autres. Mais bien sûr, c'est un pays qui était pratiquement vidé de la liberté pendant les derniers 20 ans.
Comment et pourquoi ?
Pas parce que en fait, Poutine a construit un système sans opposition, sans opinion alternative.
Et donc, depuis, effectivement, la censure s'est exercée. Vous citiez, Andrei, donc des pétitions en faveur de Poutine. Vous citiez une pétition contre Poutine, où des écrivains ont pris position au péril de leur propre vie. Il y a aussi pas mal de démissions dans le milieu culturel. Avez-vous l'impression que du côté russe, c'est peut-être cette minorité intellectuelle, artistique, qui va s'engager? Et est-ce que c'est utopiste d'imaginer qu'elle pourrait entraîner une opinion publique un peu plus large?
Non, c'est une idée utopique. Bien sûr, il y avait toujours une opposition culturelle, mais pas politique. Mais cette opposition était aussi contrôlée par l'État. Il était puni il devait partir à l'étranger et il doit être silencieux aussi. Et comme ça, c'est bien de savoir qu'il existe ces gens qui sont contre la guerre avec l'Ukraine. Mais aussi, je comprends qu'ils ne peuvent faire rien sauf faire déclaration à l'étranger et pas aussi en Russie, parce que maintenant, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de Facebook, Twitter, YouTube, il n'y a pas de possibilités, de placer son voix contre la guerre sur l'Internet.
Vous avez dit tout à l'heure, Andriy Kourkov, que vous vous sentiez européen. Je vous propose d'écouter, j'imagine que c'est une intervention que vous avez dû, vous aussi, regarder avec intensité. C'est l'intervention de votre président. C'est une intervention qu'a fait votre président Vladimir Zelensky. C'était le 1er mars 2022, quand il s'est adressé en direct au Parlement européen. On l'écoute.
Vous savez,
ces derniers jours, je ne sais plus comment saluer les gens, parce que je ne peux pas dire bonjour, parce que chaque jour, c'est une mauvaise journée. Pour certains, c'est même leur dernière journée. Et ici, je vous parle des citoyens ukrainiens qui défendent leur pays en faisant le sacrifice ultime. Ce que j'ai vu ici à l'instant me réjouit profondément et je suis heureux de vous voir tous unis, tous les pays de l'Union européenne. Je ne savais pas que le prix à payer serait si fort pour voir ceci. Je n'ai pas ici des notes, je n'ai pas un discours écrit, parce que maintenant, on n'en est plus là aujourd'hui. Nous devons faire face à la réalité. Il y a des personnes qui meurent tous les jours. C'est ça, la vie réelle, aujourd'hui, pour nous. Nous allons vaincre, je suis sûre. Je suis convaincu que cette expression, le choix européen de l'Ukraine, c'est le chemin sur lequel nous nous engageons aujourd'hui. Notre peuple est très motivé. Nous continuons à lutter pour nos droits, pour nos libertés, pour notre vie. Et aujourd'hui, nous luttons pour notre survie. Mais nous sommes également confrontés à un autre défi. Nous voulons maintenant être vos égaux. Nous voulons être membres de l'Union européenne. Et l'Union européenne sera beaucoup plus forte avec nous. Sans vous, l'Ukraine sera seule. Nous avons fait preuve de notre force. De votre côté, prouvez que vous n'allez pas nous laisser tomber. Prouvez qu'en effet, vous êtes des Européens. Et ensuite, c'est la vie qui l'emportera sur la mort et la lumière qui l'emportera sur les ténèbres. Gloire à l'Ukraine.
Comment avez-vous réagi à cette intervention, Andriy Kourkov ?
Je suis très positif et je suis très heureux que le comportement du président d'Ukraine, Vladimir Zelensky, est un vrai et correct comportement d'un homme d'État pendant la guerre. Et comme ça, je ne suis pas un fan de Zelensky, je n'ai pas voté pour lui, mais...
Oui, je sais, vous le dites, vous n'avez pas voté pour Zelensky, parce que vous ne croyez pas, à l'époque des élections, à sa capacité d'être un dirigeant. Or, effectivement, il y a eu une transformation radicale. Il est devenu un héros à travers le monde entier. Comment vous l'expliquez, vous, d'Ukraine, Andriy Kourkov, vous qui êtes un romancier?
Oui, je vois qu'ils comprennent la responsabilité qu'il a. Et cette responsabilité est beaucoup plus grande que sa vie ou la vie des autres. C'est-à-dire qu'il est maintenant l'exemple, quelqu'un qui donne inspiration aux Ukrainiens. Et s'il devient silencieux et s'il s'est démissionné, c'est la fin du pays, c'est la fin de l'histoire ukrainienne indépendante.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, en WhatsApp avec le grand écrivain ukrainien actuellement donc en Ukraine, Andriy Kourkov, et en studio avec le grand cinéaste Igor Minaev. Et nous allons écouter le choix d'Andriy Kourkov pour notre plus grand bonheur, mais à notre grande surprise, c'est Michel Berger.
celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles, en pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Qui a volé leur histoire, qui a volé leur mémoire, qui a piétiné leur vie comme on marche sur un miroir. Celui-là voudra des bombes, celui-là comptera les jours, en alignant des bâtons comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal quand je pense à eux. Ça fait mal quand je pense à eux. Ça fait mal, ça fait mal.
Alors pourquoi vous avez choisi Michel Berger, Andrei?
Oui, j'ai,
ça nous fait plaisir, mais on pensait que vous alliez nous choisir un chant ukrainien d'aujourd'hui.
Non, j'adore la musique et les chansons françaises. En fait, bien sûr, mon chansonnier préféré francophone, c'est Jacques Brel. Mais si on parle des chansonniers et des chansons françaises, j'adore les frères Jacques, spécialement la chanson Barbara. Et j'écoute Barbara, j'écoutais Barbara avant la guerre chaque semaine, et les autres chansons des frères Jacques. Mais aussi, j'ai une collection dans mon ordinateur des enregistrements des musiques et des chansons françaises des années 1930, 40, 50. Et pour moi, c'est toujours le son, l'atmosphère de la liberté totale. C'est l'amour, liberté, on peut dire aussi l'avenir. L'avenir du pays, de France, l'avenir des gens qui toujours ont espoir que tout sera bien dans l'avenir, demain après demain, dans deux ans. Et je veux avoir la même, on peut dire, le même esprit comme dans les chansons françaises.
Ah, mais c'est formidable de parler de l'avenir. On va continuer à en parler. Nous avons au téléphone, je crois que c'est par WhatsApp aussi en Ukraine, une très jeune artiste qui s'appelle Sana Chamouradova. Bonjour, bonsoir Sana. Vous êtes
bonjour,
où? Merci d'être avec nous. Vous êtes où et pouvez-vous nous expliquer dans quel état d'esprit vous sentez-vous ce lundi?
Je me trouve à côté de ma grand-mère dans le village, dans la région d'Odessa. Mon père vient de nous rejoindre. Avant, j'ai vécu pendant deux ans à Kiev, et donc c'est là-bas où j'exerçais en tant qu'artiste.
Et j'ai
tout laissé en fermant à la va-vite mon appartement, toutes mes œuvres, j'ai fermé l'appartement, tout est resté à Kiev.
Je
suis partie juste avec un tout petit sac où il y a les documents, enfin la valise de détresse, les documents et l'argent, juste le nécessaire. En fait, je suis restée. Déjà, les bombardements se sont intensifiés, donc j'ai passé 24 heures dans un abri et après j'ai pu, par miracle presque, de quitter Kiev, d'être évacuée de Kiev.
Je
suis dans un petit peu en désarroi, mon humeur change d'une heure à l'autre, donc voilà, je ne vois pas encore quelle sera ma stratégie pour les jours qui viennent. Parce que l'atmosphère est très tendue, c'est surtout l'inconnu et qui pèse lourd.
Ce matin, dans la presse occidentale, Sana, on parlait de menaces sur Odessa.
C'est pour ça que je suis au courant. Je suis au courant, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas ce que je vais faire dans les jours qui viennent.
En fait, je
ne veux pas quitter l'Ukraine. Je voudrais pas ma maison. Je ne veux pas quitter ma maison, l'Ukraine. Je ne veux pas quitter, mais je vois à quel point le danger est existentiel pour le pays.
Andriy Kharkov, nous venons d'avoir le témoignage de Sana qui reste avec nous. Merci infiniment, Sana. Mais vous aussi, vous aviez la possibilité de quitter l'Ukraine. Vous n'avez pas souhaité le faire. Pourquoi?
J'ai réussi d'envoyer ma fille qui habite à Londres. Elle a traversé la frontière avec Slovaquie il y a 3 jours. Mais on reste ici, on reste en Ukraine. Et j'espère que dans l'avenir proche, je pourrais aller à l'est, vers l'est, vers Kiev. Je ne veux pas perdre cet espoir et ces plans. Et il y a beaucoup de gens comme moi qui ne veulent pas qu'ils restent en Ukraine de l'Ouest, qui louent les appartements, qui habitent gratuits chez les gens inconnus, mais qui ne veulent pas quitter le pays.
Vous avez dit tout à l'heure, Andriy Kharkov, que vous vous projetiez dans un avenir de 2 ans. Quand vous avez publié il y a quelques années votre journal de Maïdan, la vision que vous déployez à l'intérieur de ce livre très passionnant à relire aujourd'hui était très pessimiste. Aujourd'hui, comment voyez-vous cet avenir ?
Aujourd'hui, je crois que les Ukrainiens luttent beaucoup plus effectivement, beaucoup plus fort pour la résistance, pour la liberté. Et comme ça, je ne suis pas un pessimiste au moment. J'ai suivi toutes les nouvelles des lignes de front et je comprends toute la complexité de la situation militaire. Mais je suis sûr qu'on va gagner, on va résister, on va défendre le pays et son indépendance.
Alors, tout un peuple est soudé pour défendre son propre pays, son propre territoire, mais aussi ses propres valeurs et sa propre langue. Et à l'intérieur de votre journal de Maïdan, publié il y a quelques années, vous soulignez, Andriy Kharkov, l'engagement des jeunes, de la jeunesse ukrainienne. Vous dites à quel point ils ont été courageux en occupant cette place Maïdan. Vous dites à quel point ils sont déterminés à assurer et à assumer les valeurs européennes dont ils sont les détenteurs, dont ils sont peut-être les vigies. Ils ont changé de monde par rapport à ce que propose comme modèle, entre guillemets, les Russes. Et à l'intérieur de ce livre, le journal de Maïdan, on voit bien qu'il y a des générations différentes et que cette jeunesse-là, en tout cas dans votre livre sur Maïdan et l'occupation de Maïdan, on a l'impression que la jeunesse, elle est là devant, elle est peut-être là en train de proposer une alternative et peut-être une voie d'avenir, Andriy Kourkov.
Oui, bien sûr. La génération plus âgée, c'est les gens qui étaient nés à l'Union soviétique. Moi aussi, j'ai passé 30 ans dans l'Union soviétique et 30 ans après dans l'espace post-soviétique en Ukraine. Et je vois que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les gens qui sont nés après la chute de l'Union soviétique ou dans les dernières années de l'Union soviétique. Ils sont complètement différents. Ils sont les gens européens avec des valeurs européennes qui ne veulent pas et ne sentent pas aucune nostalgie vers la vie soviétique. Ils veulent que l'Ukraine devienne civilisée, démocratique et européenne comme la France, comme l'Italie, comme Lituanie, comme Estonie. Il y a beaucoup de choses à faire, mais ils sont prêts, ils ont énergie pour ça. Ils sont entrés dans la politique plutôt sur le niveau local, mais ils réussissent de faire beaucoup de choses. Et je voyage beaucoup et volontiers en Ukraine. Et un de mes derniers voyages était dans la région de Poltava, dans un village où les gens ont créé un espace ouvert pour les gens, avec des ordinateurs, des bibliothèques, des débats sur les issues politiques, économiques et sociales. Et c'est la vie qui change, qui aussi montre les gens plus âgés, qu'il faut changer, il faut accepter tous les changements, toutes les réformes, il faut devenir plus dynamique, plus flexible peut-être aussi, mais plutôt plus européen.
Plus européen et dans des pratiques de vie aussi collectives qui vont peut-être manifestement complètement changer après, si j'ose dire, la fin de cette guerre. Sana Chamouradova, vous êtes toujours avec nous. Comment voyez-vous l'avenir pour votre génération, vous, Sana?
Тут дуже важко наразі роз'єднати страх від
віри. Même de délier la peur et la foi.
Але я те, що я спостерігаю зараз в оточенні, те, що я спостерігаю зараз, як поводиться весь народ.
Dans les gens de mon entourage et aussi dans le comportement de toute notre nation,
je pense que
là, à la fois la peur est existentielle, mais à la fois la foi que l'Ukraine sera victorieuse.
Боже, дух в нас дуже міцний, тепер залишилося тільки закріпити матеріал.
Nous avons vraiment cet état d'esprit très fort qu'il faut combattre, qu'il faut maintenant se donner jusqu'au bout physiquement, mais notre état d'esprit est très fort.
Igor Minaev, vous partagez ce sentiment?
Entièrement. Bon, malgré le fait que la guerre est loin d'être finie, etc., on parle déjà de quelque chose de l'avenir. Et ça, c'est très bien. Et hier, j'ai écouté le discours du président Zelensky. Il parlait justement comment l'Ukraine va continuer à vivre. Et je pense que ça, c'est le plus important aujourd'hui. Et déjà, même depuis des années, etc., j'ai vu des gens en Ukraine, qui commençait à parler plusieurs langues. Ça, c'était impressionnant, parce que à mon époque, personne ne parlait des langues étrangères comme ça. Déjà, c'est vrai qu'ils parlent anglais pratiquement tous, mais quand j'étais à Kharkov, j'ai vu des filles qui parlaient français, mais elles parlaient français, mais à la façon impeccable. J'ai demandé comment ça se fait, est-ce que vous étiez en France? Elles disaient jamais. Donc, ils ont appris le français grâce à l'Alliance française. Voilà, donc tout ça, ça marche. Et ça ouvre quand même des horizons. Comme ça, on entre, on va d'autres cultures d'aujourd'hui. Je travaille avec un producteur de Kiev. C'est un jeune homme, il a une petite quarantaine d'années. Il a fait ses études à Kiev, après à Paris. Il est revenu à Kiev. Actuellement, il est là-bas. C'est lui qui a produit ce film, La cacophonie du Donbass. On est en train de faire un autre film. Normalement, j'aurais pas dû être aujourd'hui ici, parce que j'aurais dû être à Kiev pour tourner ce film-là. Malheureusement, bon, c'est la guerre qui a arrêté. Mais je pense absolument, je suis sûr et certain que le film n'est pas annulé, parce qu'on va le reprendre et on va le faire. de toute façon, dès que ça se termine, dès que la guerre se termine. Voilà, donc c'est une nouvelle génération des gens qui construisent des choses et que j'espère qu'après cette épreuve vraiment très dure, très difficile, vraiment, on peut dire extrême, ce sera un autre pays. En pays moderne, en pays européenne. Et voilà, donc je croise les doigts.
Un autre pays, Andriy Kharkov, dans votre dernier livre, Les abeilles grises, vous mettez en scène un apiculteur qui veut rester dans son village pour sauver et protéger ses abeilles et qui a quelque chose de merveilleux à proposer grâce à ses abeilles. Il a construit un petit matelas au-dessus des ruches et les personnes qui s'allongent sur ce matelas au-dessus des abeilles vont se voir leur force se décupler. Est-ce que vous pensez à quelque chose qui pourrait vous aider, vous, les Ukrainiens, comme cet apiculteur avec son petit matelas au-dessus de ses abeilles?
Oui, je crois que la consolidation des Ukrainiennes aide les Ukrainiennes aussi. La compréhension que tous les Ukrainiens sont ensemble contre l'ennemi commun. Le soutien européen, le soutien français donne beaucoup d'énergie aux Ukrainiennes. Et comme ça, je suis sûr que cette énergie qui vient d'Europe, c'est beaucoup plus fort que l'énergie des abeilles utilisée pour récupérer la santé si on dort sur les ruches.
Ben merci beaucoup, Andriy Kharkov. Le dernier mot appartient à la jeune génération. Sana, vous êtes encore là. Quels sont vos espoirs aujourd'hui, ce soir, lundi?
Demain, je ne sais pas, mais j'ai la foi dans l'avenir et j'ai l'espérance.
Merci beaucoup. Merci infiniment, Sana. On est avec vous. Et merci aussi à Andriy Kharkov. Merci à Igor Minaev. Donc, Andriy Kharkov, je rappelle que tous vos livres sont publiés aux éditions Liana Levy. Il faut vraiment lire votre œuvre en commençant par le commencement, c'est-à-dire par le premier qui s'intitule « Le pingouin ». Et puis en terminant avec le dernier qui sort en ce moment même, qui s'intitule « Les abeilles grises ». Et puis merci à Igor Minaev, de je rappelle que votre film « La cacophonie du Donbass » est disponible aussi sur les réseaux sociaux et qu'on peut voir avec beaucoup d'émotion ce film qui nous restitue un passé proche, un passé qui a été construit comme un récit national plus ou moins mensonger, mais qui permet de mieux comprendre la tragédie ukrainienne en ce moment. Et merci beaucoup à Sana Chamouradova. Merci infiniment.
Non, me regarde pas dans les yeux. Je veux pas que tu vois que j'y vois que toi dans les deux. Que je tiens plus très droit. Moi sans toi j'ai l'air un peu louche. Mine de rien je tiens pas bien sûr mes touches. Comme une extase, un vertigo qui m'écrase. Je tombe comme un passant de ta ville. Je tombe comme un pleur sur ton cil. T'es comme une extase, un vertigo qui m'écrase. Je tombe comme un passant dans ta ville.
Merci à Andrei Kourkov, Igor Minaev et Sarah Chamouradova. Merci infiniment à notre traductrice Nathalie Boyko-Jacoura qui était avec nous ce soir. Merci à toute l'équipe, merci à Élodie Royer, Marie Mougin, Marie Clément, merci à Jean-Baptiste Audibert et merci à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Avec à la régie technique ce soir, Alexandre Chénet. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec Mishka pour son Very Good Trip. Mais attention, demain soir, émission spéciale pendant toute la journée, France Inter parlera de l'Ukraine et de ce qui se passe en Ukraine, avec à 18h, avec Fabienne Sintès, un 18-21h spécial Ukraine. Et à partir de 21h, France Inter s'associe à France 2 pour la diffusion en soirée d'un grand concert de solidarité avec les Ukrainiens, concert qui se déroulera à l'auditorium de Radio France, avec notamment l'Orchestre National de France, des artistes de variété et des comédiens. Merci infiniment et bonne soirée à tous.